Avec Bernard Toinel, rédacteur en chef du VSD hors série, en kiosque depuis quelques jours. C'est le quatrième du nombre. Vous êtes déjà nombreux à être fidèles tous les ans. Et j'espère que cette année, vous serez encore plus nombreux. Car véritablement, il y a des informations sortant de l'ordinaire. Les rapports officiels sur les ovnis. Et coup de chapeau à François Siegel, qui est le patron de tout ça. Et qui vous donne les moyens de travailler. Vous, le fouineur d'informations.
Absolument, hein, et c'est pas facile.
Alors donc, le bombardier, la trajectoire intelligente. Que se passe-t-il ensuite ?
Eh bien, l'objet disparaît donc de la vue de l'équipage, et au dire des témoins au sol, se pose assez loin, parce que les sites de missiles sont très éloignés des uns des autres. Ceci se pose en plein milieu d'un site de missiles Minuteman.
Attendez, bon, il y a quand même une chose qui est complètement folle. Comment un objet peut venir se poser sur un site de missiles sans qu'on ait eu la possibilité d'intervenir, c'est-à-dire d'envoyer un contre-missile pour l'abattre?
Ah ben ça, il n'y en avait pas d'abord sur la base.
Oui, non mais
il n'y avait pas de site de missiles. Et puis de toute façon, tout le monde a été pris de court. C'est allé très vite, en quelques minutes. Ça s'est passé vraiment dans un laps de temps extrêmement court. C'est ça le problème des ovnis. C'est que d'une manière générale, les observations se déroulent sur quelques secondes, grand maximum 2-3 minutes, mais c'est vraiment extrêmement court.
Bernard Toinel, il se pose.
Oui.
Alors, il reste là longtemps?
Mais il est resté suffisamment longtemps pour que le B-52 soit chargé de le survoler pour voir qu'est-ce qu'il faisait, parce que personne n'était...
Et on cherche pas le canardé du B-52, on ne donne pas l'ordre de...
Il n'était pas armé, l'avion était en mission d'entraînement, il ne savait pas du tout ce qu'il a fait.
Et il n'y avait pas d'avion de chasse qui était capable de venir rapidement se porter au-dessus du site.
Tout le monde était pris de court, je crois qu'il y avait des chasseurs F-106 qui étaient basés sur le tarmac, mais le temps de les faire décoller, il aurait fallu un quart d'heure, 20 minutes, c'était pas possible de gérer ça.
Bon, donc, il est là, il reste un certain temps.
Oui.
Et il repart.
Oui, non, mais le B-52 le survole.
Voilà.
Et le copilote que j'ai pu rencontrer, qui maintenant, parce qu'on a retrouvé tout l'équipage du B-52, ouais, avec des amis américains, ils sont tous dispersés aux États-Unis. Donc on leur a fait raconter à nouveau ce qu'ils avaient vécu. Ils ont été tous unanimes, redondants. Enfin bref, c'était... Et alors, le copilote voit cette espèce de masse lenticulaire lubineuse, avec une espèce de croissant, comme si on avait ouvert un orifice ou une porte. Et puis, ça l'a tellement choqué qu'il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, pas possibilité de faire des photos. Et surtout, l'objet redécolle et on envoie un commando. Bien sûr, tout de suite.
Ah oui, pour voir s'il y a des traces.
Ce qui se passe. Bien sûr. Et non pas pour voir s'il y a des traces, s'il n'y a pas une intrusion d'ennemis ou je ne sais de quoi. C'est quand même des armements nucléaires.
Oui.
Alors là, on envoie un commando. Plus de nouvelles. Les types, on les retrouve inconscients autour de leur véhicule. Et alors, mieux encore, une des portes du silo, qui pèse 20 tonnes, vous savez, ce sont les portes qu'on éjecte pour lancer un missile, eh bien, cette porte, qui est normalement, donc, qu'on ouvre exceptionnellement pour la maintenance, était totalement ouverte. 20 tonnes ouvertes. Et ils ont retrouvé, finalement, une des grilles de protection également ouverte, qui normalement sont fermées. Et là, personne n'a compris. On a tout de suite fait, bien sûr, une enquête. On s'est demandé ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui était arrivé au commando? On n'a jamais su.
Et aucun membre du commando n'a pu au moins donner quelques informations sur ce qui s'était passé avant de perdre connaissance.
Non. Ils ont été tous pris de court, je crois.
Il y a plus rien. Des traces qui puissent expliquer l'ouverture du silo.
Écoutez, on a retrouvé, d'après certaines informations, mais là, ça demanderait de vérifier, on a retrouvé des traces de radioactivité là où l'appareil s'était posé, c'est-à-dire près d'un parking où on met des véhicules. Donc c'était pas du tout ça émanait pas du tout des armements nucléaires, des têtes nucléaires. Donc ça, je crois qu'il y a eu une enquête de fait. Effectivement, je crois que pour l'état-major du Strategic Air Command, donc il y était l'arme aérienne à l'époque concernant les forces stratégiques américaines, a fait un rapport au Pentagone, au département de défense, et a demandé, suite à cette affaire-là, d'arrêter Blue Book. Parce que on ne pouvait plus, ça devenait absolument plus gérable. Et il était donc urgent de dire que finalement il n'y avait rien à étudier dans ce domaine-là. Et que finalement c'était préférable parce que si les Russes avaient connaissance de ces choses-là, ma foi, peut-être qu'ils auraient pu trouver la faille du système et déclencher une troisième guerre mondiale.
Alors là, bon, je dirais, pour utiliser un cliché, c'est quand même la politique de l'autruche. On n'a rien vu, ça existe, mais on n'a rien vu. Et on ne veut surtout pas voir.
Oui, mais enfin bon, je vais vous montrer simplement une carte de visite.
Alors, je peux dire ce qu'il y a dessus ou pas ?
Oui, simplement le département de la personne.
Donc, c'est le laboratoire de recherche de l'US Air Force, voilà. Et la direction, voilà. C'est ça ? Et oui. C'est le directeur.
Absolument.
Et j'ai pas le droit de donner son nom, bien sûr.
Non.
Mais c'est l'un des informateurs.
C'est un des directeurs, c'est pas un de mes informateurs, c'est un ami. Et il dirige un département qui s'appelle les sciences énigmatiques, et les concepts avancés. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'armée de l'air américaine n'a jamais cessé de s'intéresser au phénomène OVNI, et qu'il suffit simplement de fouiller, de rencontrer des gens pour s'apercevoir qu'ils ont pris l'affaire très au sérieux. Seulement, ce qui s'est passé, vous savez, les Américains sont des gens extrêmement religieux et extrêmement sensibles. Et on s'aperçoit, rappelez-vous en 1938 pour la guerre des mondes, avec Orson Welles, l'opinion publique, vous savez, se panique très très rapidement. Donc, on a des indices. On sait que ces ovnis existent, mais on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui est derrière. Pourquoi, la grande question, c'est de savoir pourquoi, depuis 1947, on n'a pas arrêté de survoler les sites de stockage nucléaire les plus secrets. Je dis bien les plus secrets. Et alors,
aussi bien aux États-Unis, et ensuite on a pu s'apercevoir que c'était la même chose en URSS.
Totalement. Et même en Chine.
Voilà.
Dans n'importe quel pays qui disposait de l'arme nucléaire, et je peux vous dire même en France. Et on serait bien curieux d'avoir les documents.
D'accord. Alors, ça montrerait quand même qu'il y ait là une action stratégique qui soit menée à travers ces objets.
Oui, ça me paraît évident.
Mais alors, apparemment, il y a une intelligence derrière, et il semblerait qu'on ne puisse pas attribuer cette intelligence à l'un des États en place sur le globe.
Ah non, parce que tout le monde est concerné.
Bon, alors, et pour autant, il est difficile de dire, ce sont des extraterrestres qui viennent de je ne sais trop quelle galaxie, parce que d'abord, il leur serait pas spécialement facile de cibler tel point stratégique nucléaire.
Alors ça répond également à une grande énigme des ufologues, puisqu'ils disent toujours que les Américains travaillent dans le secret, dans des hangars souterrains avec des extraterrestres. Je pense que s'ils travaillaient totalement en collaboration, qui correspond à rien de logique, je dirais.
Non, c'est ça échappe à toute logique.
Oui, oui. Surtout dans des bases où il n'y a pas d'ascenseur. Et ça, c'est vrai. Je peux vous dire qu'on a souvent dit qu'il y avait des hangars, par exemple à la base d'Edwards, qui est le grand centre d'essai de la base aérienne en Californie, de l'US Air Force en Californie. Moi, je peux vous dire, pour y être allé souvent, j'ai posé la question, j'ai dit, mais il n'y a pas d'installation souterraine, il n'y a pas d'ascenseur. En septembre 1992, j'ai rencontré le créateur du F-117, l'avion invisible, Ben Rich. Je l'ai rencontré en tête à tête, lors du salon de Farnborough, en septembre 1992. Il était en face de moi. J'ai discuté avec lui, et je lui ai dit, mais votre F-117, plutôt au terme d'un interview purement aéronautique, il ressemble vraiment à un ovni. Il m'a dit, mais vous savez que les ovnis existent ? Alors là. Mais je ne savais pas que c'était Sensoir qui avait fait ce rapport. Je crois que la conclusion à tout cela, c'est qu'il faut, une bonne fois pour toutes, que les scientifiques étudient ce phénomène. Il est réel. Maintenant, son origine, on ne sait pas.
Moi, que d'hypothèses, hein, parce qu'après, même avec les nouvelles mathématiques, on peut parler d'effets tunnels, de possibilités,
de
correspondance d'univers à univers, etc. Et c'est là où c'est d'une grande richesse intellectuelle, je dirais.
Hein. Oui, et puis je crois qu'il faut que nous, hommes de presse, parce que là, nous, on est un peu isolés, qu'on étudie. Il faut également qu'on publie, qu'on aille aux enquêtes également et qu'on prenne cette affaire au sérieux.
Mais écoutez, on la prend des plus au sérieux grâce à vous, ce hors-série VSD, le quatrième du nombre. Donc Bernard Toinel, c'est le rédacteur en chef, le patron c'est François Siegel. Et puis on peut dire, mais là ça n'a plus rien à voir avec les ovnis, aventure dans le ciel, 35 histoires extraordinaires. Bernard Toinel, bien sûr, c'est aux éditions Altipo.